Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé ce dimanche 29 juillet avec quelques incidents. Au centre et au nord du pays, de nombreuses localités ont aussi été privées de vote. Nos invités sur ce plateau, Mamadou Camara, porte-parole du candidat président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. C'est bien ça ? Bonjour, Nou Togo, conseiller chargé de coordination de la communication du directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé. Cheikh Oumar Diallo, directeur adjoint à la communication du candidat Aliou Diallo. Ibrahim Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Camara. Comment vous avez vécu cette journée électorale dans votre QG ?
Nous l'avons vécu dans une ambiance bon enfant. Nous avons été heureux de constater que globalement, sur l'ensemble du territoire, le vote s'est bien déroulé dans le calme et la sérénité. Et il faut saluer la qualité de l'organisation de cette élection parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, beaucoup prédisaient qu'il serait impossible d'organiser une élection présidentielle au Mali. L'élection a eu lieu, elle s'est bien passée. Nous regrettons, cela dit, que dans certaines localités du pays, nos compatriotes n'aient pas pu voter. En effet, il y a un nombre au-delà de 600 bureaux de vote où le vote n'a pas été possible. C'est tout à fait regrettable. Cela dit, ce nombre ne met pas en cause le résultat global dans la mesure où c'est une proportion infime, non seulement des bureaux de vote, mais également des électeurs. Donc un vote qui s'est bien passé. Et nous espérons que l'annonce des résultats qui arrivera dans les jours à venir se passera aussi bien. Je tiens à saluer aussi l'ensemble des candidats parce que chacun a mené une campagne digne et responsable. Ils ont été au contact des populations pour expliquer leur projet. Dans notre cas, pour expliquer notre bilan et notre projet. Et ça a été une campagne digne et responsable dans laquelle chacun a respecté les uns et les autres. Nous espérons que cela continuera et qu'après l'annonce des résultats, chacun saura garder ce sens de la responsabilité dont ils ont fait preuve pendant la campagne.
D'accord. Et vous, M. Togo ?
Hier, ce que nous avons, l'organisation des élections, ce que nous avons constaté sur l'étendue du territoire national est regrettable. D'abord, la mauvaise organisation sur l'étendue du territoire national, il s'agissait pour le gouvernement, ils n'ont pas eu le moyen de sécuriser, comme promis, 777 bureaux de vote sur l'étendue du territoire national qui sont favorables pour l'opposition. Nous avons remarqué aussi qu'il y a eu des localités où il y a des bourrages durs sur l'étendue du territoire national, surtout au nord du Mali, à Salam, avec plus de 800 non de bourrage d'urne à Talata et d'autres localités. Nous allons revenir là-dessus. Et nous pensons qu'aujourd'hui, on a privé beaucoup de Maliens au droit de vote. Et nous avons remarqué aussi au niveau des bureaux de vote la violation de la loi, l'absence surtout des cartes dans les bureaux de vote, donc qui était regrettable pour nous.
D'accord. Et vous, Monsieur Diallo ?
Eh bien, nous, comme vous le savez, le candidat Aliou Diallo est un homme qui était entrepreneur avant de commencer la politique et qui donc s'engageait pour la toute première fois dans un scrutin d'une telle importance. Nous avons mené une campagne que nous pensons être une campagne absolument formidable puisque l'élan de soutien à sa candidature a été absolument incroyable. Nous n'avions jamais pensé que cette candidature, enfin nous en avons toujours été convaincus, mais nous ne pensions pas que ça entraînerait un tel vent d'espoir. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons à l'issue de cette élection, c'est qu'il y a manifestement de très graves irrégularités dans la conduite du processus électoral qui sont en train d'entacher la sincérité et la crédibilité du scrutin. Notamment, ce que nous déplorons, c'est bien évidemment, comme l'a indiqué M. Togo, un certain nombre de localités où les scores qui sont annoncés comme étant ceux du candidat sortant sont tout de même incroyables, avec des taux de participation qui frôlent les 90% dans certaines localités. Des résultats que nous n'avons jamais enregistrés dans l'histoire démocratique du Mali. Nous enregistrons également des cas très nombreux dans lesquels certains militants, même de M. Aliou Diallo, ont eu à se présenter dans des bureaux de vote pour constater que d'autres personnes avaient déjà voté en leur nom. Nous constatons également qu'un certain nombre de cas bien documentés et vidéos font état d'achats de conscience massifs dans les rues à ciel ouvert de la population malienne. Et donc, nous estimons que malgré tout ceci, le candidat Aliou Diallo a réussi à vraiment remporter, à vraiment faire un score qui est excellent et qui, pour nous, le place effectivement dans une position de très sérieux challenger pour la conquête du fauteuil présidentiel.
D'accord. Alors, M. Camara, qu'avez-vous à répondre aux propos de M. Togo et M. Diallo concernant le déroulement de ce scrutin, vu que vous dites que tout s'est bien passé et ils signalent les irrégularités?
Bon, si on n'était pas à la radio et à la télé, j'aurais répondu par un simple sourire, j'aurais tapé sur l'épaule de mon jeune frère. Mais puisqu'il s'agit d'un débat sérieux, je vais vous dire, le gouvernement a tout mis en œuvre pour que la transparence soit de mise pour cette élection. Vous savez que nous votons sous le régime d'une nouvelle loi électorale. Cette loi électorale a été votée il y a quelques mois et elle est le fruit d'un consensus entre l'opposition et la majorité, premièrement. Deuxièmement, l'opposition nous a dit que nous n'avons pas confiance en le fichier électoral. Le gouvernement a commandité un audit, audit qui a été réalisé par une institution absolument indépendante, il s'agit de l'OIF, avec une commission présidée par un membre de l'opposition. Deuxième acte, l'audit a dit de manière très claire que le fichier était apte, bon et crédible pour une élection transparente. Ensuite, l'opposition nous a dit on n'a pas confiance aux Cartina qui nous ont permis de voter lors du scrutin de 2013. Qu'a fait le gouvernement? Il a fait fabriquer des nouvelles cartes d'électeurs avec lesquelles nous avons voté sur la base du fichier qui a été audité, validé par eux-mêmes et qui est donc un fichier consensuel. Par conséquent, toutes les conditions de transparence sont réunies. Ensuite, l'opposition a demandé d'autres choses, notamment concernant les procurations, ne souhaitant pas que ceux qui votent au nom d'autres personnes soit d'un autre bureau de vote. Le gouvernement a accédé à cette demande. La communauté internationale a demandé à être présente au moment de la centralisation nationale des votes, ce qui a été accordé. Donc voilà, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Il faut reconnaître que tout a été mis en œuvre par le gouvernement et je crois que les observateurs, la communauté internationale présente ici au Mali, le reconnaît. Maintenant, pour les griefs qui sont opposés par mes deux camarades, je dirais qu'il y a des recours légaux. S'ils ont constaté ici et là des irrégularités, ils ont le droit et même le devoir de porter ce recours devant les juridictions compétentes, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. Simplement, je veux dire, il ne faut pas crier au loup. Lorsque l'on sent qu'une élection ne nous est pas favorable et qu'on est opposant, on a souvent tendance à dire « Ah, mais ils ont triché, etc. » Ne soyons pas mauvais perdants avant de connaître les résultats. Gardons notre calme, chers amis. Les résultats seront annoncés dans les jours qui viennent, j'espère le plus vite possible. À partir de là, encore une fois, les uns et les autres pourront faire les recours qu'ils jugent nécessaires. Simplement, ce que je voudrais dire, aucune élection n'est parfaite.
D'accord.
Aucune élection n'est parfaite. Le nombre de bureaux de vote qui n'ont pas voté en 2018, il y a quelques jours, est équivalent au nombre de ceux qui n'ont pas voté en 2013. Ça veut dire qu'aucune élection n'est parfaite. Le gouvernement a fait le maximum. Je crois que l'élection a été la plus transparente possible. Maintenant, attendons sereinement, calmement les résultats et ensuite, on verra les uns et les autres ce qu'on peut faire en termes de recours.
Oui, Monsieur Togo.
Vous savez, c'est regrettable parce que je me suis dit que la conception des fichiers, la conception d'abord de la loi concernant les élections, d'abord, nous n'avons pas vu la présence de la majorité, ils ont fui le débat. Donc, ça a été proposé par l'opposition et nous avons vu, ils ont brillé par leur absence aujourd'hui. Donc, tout ce qui s'est passé dans ce long... Non. Attendez, s'il te plaît. Alors, donc, nous avons dit le principe, ce qu'ils ont voulu faire, nous n'avons pas accepté ce principe. D'abord, concernant les procurations, c'est une violation de la loi. La loi est très claire là-dedans. On ne peut pas violer la loi. Si on donne l'occasion à des gens de voter plus de 10 fois, donc ça veut dire que c'est des vols programmés. Donc on s'est battu et la communauté internationale visant, ils ont accepté de forcer le gouvernement à accepter de retourner sur les vols programmés. Deuxième aspect de la chose concernant ce qui s'est passé au niveau des autres structures, de l'organisation pratique. Vous savez très bien qu'au niveau de la loi, les dispositions sont prises et nous sommes aujourd'hui, nous sommes sereins dans l'organisation parce que ce n'est pas des propagandes qui feront que réellement nous allons essayer donc de tomber si bas pour ne pas répondre à certains aspects de la chose. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce gouvernement de la République du Mali a été forcé d'accepter certains principes avec les bailleurs de fonds, avec la communauté internationale. Nous avons été sereins, nous savons que réellement que le peuple malien, tout ce qui a été promis par le peuple malien, d'abord pour aujourd'hui une élection transparente et crédible, nous pensons réellement que le gouvernement a voulu jouer d'abord les fichiers. Les fichiers, c'est que nous avons, effectivement, nous avons pu dénicher, parce que c'est tout ce qui a été programmé, des programmations de vol, souvent des bureaux de centres qui n'existent pas. Donc souvent, si c'est 12 centres, on compte, on fait des décomptes, on trouve qu'il y a 13 centres là-dedans. Donc, il y a des vols programmés, il y a eu des bureaux, il y a eu des bureaux fictifs. Nous sommes retrouvés à plus de 1 300 000 et quelques votants supplémentaires où l'hold-up qu'ils ont voulu préparer pour dire le tac au clé, nous avons refusé ça parce que le problème, c'est que le peuple, nous avons des techniciens, des gens qui sont appuyés. Nous avons analysé les fichiers, nous avons trouvé qu'ils voulaient faire l'hold-up. Nous avons refusé, nous avons... je me souviens que le Premier ministre lui-même a reconnu qu'il y a eu des erreurs techniques. Le représentant de la DG a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Pour nous, en matière d'informatique, on ne peut pas inventer la roue de l'histoire. Ça veut dire que c'était des vols programmés. Nous avons pu rapidement créer les conditions pour qu'on puisse revenir sur l'autre fichier. Alors donc, avec l'avis des partenaires, l'appui des partenaires, c'est que nous sommes arrivés à faire en sorte que ce fichier qui a été... Le banditisme au sein même du fichier, qu'on puisse revenir à ça. Donc, nous avons géré avec responsabilité. Alors, donc, on n'est pas paniqué, on est serein. Parce que nous, on sait ce qu'on veut. Alors, le peuple malien sait ce qu'il veut. Tout ce qui a été promis par ce régime, aujourd'hui, le président de la République le sait. Les représentants de ce régime savent très bien ce qui se passe. C'est que le peuple est déçu de leur comportement. Et donc, tout ce qu'ils veulent faire, ça veut dire, c'est des pipeaux. Donc, le peuple malien donc, répondra.
Nous allons revenir à vous, M. Togo. Alors, M. Diallo, M. Oui. Togo nous parle de vol programmé. Et vous, qu'en dites-vous?
Eh bien, moi, ce que je dis, c'est que tout d'abord, celui qui est avec moi ici, mon camarade Camara, a fait état d'un certain nombre d'éléments que je pense être à corriger. Tout d'abord, je pense que sur la question de la mauvaise foi, aujourd'hui, à l'issue de cette élection, ce que nous constatons, c'est que la mauvaise foi est plutôt du côté de ceux qui ont le pouvoir et qui sont en train de se représenter pour un second mandat. Tout d'abord, au niveau de la Commission nationale de centralisation, on constate un certain nombre de faits qui sont quand même très inquiétants, avec une opacité totale dans le mécanisme de collecte de ces résultats. Une salle qui est totalement inaccessible des représentants de l'opposition, qui n'est accessible que par l'administration et par le représentant du RPM.
Mais comment cela a pu se passer?
Ah, mais parce qu'il y avait trois commissions. Une des commissions est chargée de la collecte par fichier RAC, une autre par la collecte par fax et une autre par Internet. Et comme par hasard, on découvre en cours de route que les deux moyens de collecte, l'un présidé par l'URD et l'autre présidé par l'ADP Maliba, ne marchent pas. Et donc, sont coupés. Et donc, le seul moyen de pouvoir récupérer les fichiers se font par Internet, par le RPM. Et à ce titre-là, la salle dans laquelle se fait ce travail-là est une salle qui n'est pas accessible de l'URD ni de l'ADP Maliba. C'est une salle qui est à un étage supérieur.
Mais c'était accessible pour d'autres candidats?
Pour l'administration et le RPM uniquement. Et les résultats tombent de là-bas tous les jours. On vient, on nous dévoile un nouveau résultat et on vient nous dire d'accepter cela et de signer ces 10 PV. Donc l'opposition, de manière responsable, a refusé catégoriquement ceci et est en train de demander à ce qu'on explique clairement comment sont collectés ces résultats-là. Donc parlons également de cette question des procurations. Je crois que c'est à la dernière minute que les autorités ont fini par céder sur cette question-là en dévoilant une instruction qui demande de revenir sur le premier document émis par le ministre de l'administration territoriale, mais qui, semble-t-il, n'est pas parvenu à l'ensemble des acteurs du processus dans plusieurs localités. Nous avons des délégués, des mandataires qui ont demandé à ce que cela s'arrête dans certaines localités.
Dans
des localités telles qu'à Banamba, dans des localités telles que même ici à Bamako. À Bamako, je vous dis, je ne vous parle pas de la brousse éloignée, je vous parle de la capitale. Des localités dans lesquelles vraiment une totale opacité s'est produite et où, notamment à Gossi, notre représentant nous a fait état de la fuite des présidents de bureau et de certains responsables de ces localités avec les urnes pendant quasiment toute la journée pour ensuite revenir et demander aux représentants de l'opposition à 18h de venir procéder au décompte avec eux. Au Gabon, nous avons le même cas, avec des irrégularités flagrantes dans la manière dont le scrutin s'est déroulé. Et aujourd'hui, ce que nous demandons, au-delà de la vérification de cela, c'est quasiment un contrôle sur les bulletins de vote, la sécurisation de l'ensemble des urnes pour qu'on puisse, de manière échantillonnée, contrôler les empreintes qui sont dessus. Parce que moi, je suis convaincu que les mêmes personnes, de manière répétitive...
Mais pensez-vous que cela est possible ?
Je pense que c'est très fort possible. On n'a pas besoin de contrôler toutes les urnes, on a besoin de prendre certains échantillons. Dans les zones où nous disons qu'il y a quelque chose à contester, nous parlons notamment de Taoudini, nous parlons de Tessalit, nous parlons de Tarkint, nous parlons de Banamba, nous parlons de Ségou, nous parlons de Markala, nous parlons de Gossi.
Mais il y a des localités que vous êtes en train de citer dont il y a eu des attaques, des violences qui ont fait qu'il n'y a pas eu vote dans ce
pays. Non. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, notre représentant à Gossi nous a dévoilé un résultat partiel dans certaines localités et un résultat que nous nous trouvons complètement aberrant. Et je vous le dis, je vous le confirme, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique de contestation pour le simple fait de contester. Nous sommes déjà très fiers d'être aujourd'hui dans une position très importante dans la vie politique malienne, après n'avoir apparu dans la vie politique malienne qu'il y a 6 mois, à l'issue d'une désignation à Nioro du Sahel. Alou Diallo, aujourd'hui, est un candidat qui est un challenger très sérieux. Et donc, nous sommes sereins, mais nous n'acceptons pas non plus que l'on rentre dans un processus électoral qui est floué d'avance et dont le seul objectif est d'arriver à une victoire du candidat Ibrahim Boubacar Keïta de manière illégale.
Monsieur Camara.
Merci, madame. Bon, moi, je suis assez surpris d'entendre mes deux contradicteurs être d'accord aujourd'hui sur ce plateau, parce que je sais que l'un d'eux clame la deuxième place au niveau national et l'autre aussi clame la deuxième place au niveau national.
Non, le premier.
Donc lequel d'entre vous triche?
Non, le premier, excusez-moi.
Lequel d'entre vous triche? Est-ce que c'est l'URD ou ADP
Maïga? Oui, mais monsieur Togo, monsieur Diallo, je vous en prie. Allez-y,
lequel de vous deux accuse l'autre d'avoir soit bourré les urnes, soit tricher en cachant... S'il vous plaît. Ibrahim Boubacar Keïta, s'il devait tricher, ne tricherait pas en votre faveur ni en celle de l'URD. Donc il y a un problème entre vous, réglez-le entre vous, opposition. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, monsieur Togo se dit serein. Ce n'est pas l'impression que j'ai en écoutant vos propos entre nous. Vous êtes mon aîné, mais permettez-moi de vous dire ça.
Rassurez-vous.
Moi, ce que je dis simplement, les Maliens ont voté. Ils l'ont fait dans le calme, dans la sérénité. Il y a très peu d'incidents qui ont été signalés par des Maliens, par les observateurs, en dehors des bureaux de vote où, effectivement, et malheureusement, il était impossible de voter. Maintenant, soyons calmes. Attendons les résultats. D'ici quelques heures, d'ici quelques jours, les résultats provisoires, je dis bien provisoires, ça veut dire qu'ils pourront évoluer, seront énoncés. À partir de là, les uns et les autres pourront venir avec les preuves dont ils parlent, en nous disant, ici il y a un problème, ici il y en a un autre. Ils feront les recours auprès de la Cour constitutionnelle qui estimera si ces recours-là sont valables ou pas. Si M. Diallo arrive à nous prouver que des gens ont voté plusieurs fois, dans ce cas-là, ces votes seront annulés. Si M. Togo nous prouve qu'il y a eu bourrage d'urne dans telle zone, ces trucs-là seront annulés. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de gâcher la fête avant qu'elle ne soit terminée. Oui. Et ne cherchez pas non plus, s'il vous plaît, M. Diallo, à changer les règles pendant le match.
Monsieur Camara, oui, quand vous dites des petits incidents, on dénonce plus de 600 bureaux de vote fermés.
Ça change tout
le chiffre de l'administration territoriale.
611
bureaux dans lesquels il a été impossible de voter.
Et vous dites des petits incidents selon les...
Attention.
Mettez-vous d'accord avec le ministère.
Je vous rappelle, moi je ne représente pas le ministère.
Alors, donc,
vous venez d'avancer le chiffre.
Clair. Oui. Ce que je dis de manière très claire, c'est qu'il y a eu 611 bureaux, au dernier pointage dont j'ai eu la connaissance, dans lesquels nos compatriotes n'ont pas pu voter. J'ai dit au début de mon propos que c'était malheureux. J'ai dit que c'était très regrettable. J'ai dit néanmoins que, dans la globalité, l'élection s'était bien déroulée, il n'y a pas eu de mort d'homme. Vous, les médias, vous aimez parler de ce qui ne marche pas. Dites l'essentiel.
Monsieur Diallo, je vous en prie.
Elle donne la parole à tout le monde.
Monsieur Diallo, je vous en prie, je vais vous...
Je dis simplement qu'aucune élection n'est parfaite. Il y a eu des incidents dans ces bureaux de vote-là. Malheureusement, c'est regrettable. On n'a pas pu voter. Ce que je dis également, c'est que la proportion de ces bureaux-là est faible, elle représente 3%, et que le corps électoral qui est représenté dans ces bureaux-là représente une proportion encore plus petite. Évidemment que nous aurions souhaité qu'ils votent, mais écoutez, ça n'a pas été possible, mais ça n'entache en rien la sincérité du vote, parce que c'est une partie infime. Voilà ce que je dis.
D'accord, oui, monsieur Diallo.
Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec monsieur Camara, comme tout le long de ce mandat passé...
Dont vous faisiez partie au début, souvenez-vous.
Oui, mais...
Nous avons fait campagne ensemble en 2013.
Vous savez, hein.
Vous étiez sur les plateaux pour défendre le candidat
immédiat. Vous savez, exactement.
Voilà. C'est ça, la vie.
Je disais donc qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans le même Mali que monsieur Camara, puisque j'ai l'impression qu'il n'est même pas au courant que littéralement un groupe armé dénommé le Congrès pour la justice dans l'Azawad s'est levé, a pris position dans Gundam pour dénoncer la manière dont l'élection s'est déroulée dans le cercle de Gundam et dénoncer notamment le bourrage d'urne. Donc j'ai l'impression que nous vivons... Nous n'avons absolument rien à voir avec eux. Nous faisons que constater et également rappeler les faits. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler pour le simple fait de parler. Nous sommes en train de faire état d'une situation qui démontre une volonté manifeste de bourrage d'urne afin d'éviter... Mais si, nous disons la vérité. Et aujourd'hui, ce que nous constatons également, c'est que...
Monsieur Diallo.
Vous savez, quand les gens disent des choses comme ça, c'est difficile.
C'est la même chose que vous disiez tout de suite, vous m'avez demandé d'attendre. Donc, ce que je disais, c'est que, bien évidemment, cette situation-là n'est pas une situation qui permet d'apaiser les tensions qui sont en train de naître de cette situation qui est complètement inexplicable. Des taux de participation qui frôlent les 90% dans quasiment 100% quasiment dans certaines localités, du 80% notamment à Yoroso, des localités dans lesquelles, franchement, de toute l'histoire démocratique du Mali, on n'a pas vu les gens sortir voter de cette manière. Même à Kinyeba, où le président de la République a subi, on dirait, un affront de la part des populations, il se retrouve largement vainqueur, trois fois devant le second poursuivant qui est derrière lui. Donc aujourd'hui, nous avons des raisons légitimes de demander à ce qu'on nous explique par quels moyens ces résultats-là ont été obtenus et de comprendre très clairement ce qui motive cette volonté de mettre certains candidats hors course, simplement parce qu'aujourd'hui, ce que nous comprenons, c'est que le candidat Alou Diallo représente quelque chose qui n'est pas dans les bonnes grâces de cette majorité-là. Et nous estimons également que si nous reprenons les choses par le bon bout, aujourd'hui, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta n'est même pas au deuxième tour.
Je voulais dire à mon petit frère Camara, s'il y a quand même des gens très proches de ces rebelles, je pourrais dire que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta, parce que c'est ce qui s'est passé à Kidal. Ce qui s'est passé à Kidal, plus de 23 000 personnes ont voté à Kidal pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, 3 000 pour le président Soumaïla Cissé. Alors donc, rapidement, on peut savoir qui est très proche de ces hommes-là aujourd'hui qui sont armés. Alors donc, je prends l'exemple surtout sur le cas du cercle de Menaka. Si on prend l'exemple, prenons Menaka, la ville de Menaka, 20 702 inscrits, habitants inscrits d'abord, on est à 20 818, ça veut dire les habitants, ceux qui sont inscrits dépassent les habitants. Taux de participation pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, 9998 voix. Soumaïla Cissé, 1803 voix. Alou, 3600 voix. Cheikh Modibo, 80 voix. Ça veut dire qu'on dépasse largement les 100%. Ce que ça veut dire, tout simplement, des bourrages durs. Alors, nous pouvons citer beaucoup de localités de ce genre. Nous avons vu le gouverneur de Taoudéni prendre des urnes, remettre à des maires. Après, vers 18 ans, on avait rempli des urnes, retourné pour demander à l'opposition d'accepter de signer. Alors donc, nous avons dit ça, c'est des remarques de façon très claire et nette. Mais nous avons vu ce qui s'est passé aussi au centre, là, dans la région surtout de Mopti. Les localités favorables donc, à nous ou à nos amis, 767 ont été carrément des urnes qui ont été brûlées. Alors donc, pour nous, la responsabilité de l'État, c'est d'assurer la sécurité sur l'étendue du territoire national, ce que nous ont promis. À ce stade de la chose, nous pensons réellement ce qui s'est passé, c'est un complot contre le peuple malien.
Monsieur Camara.
Moi, je suis un peu amusé parce que ce Togo nous parle de localités favorables. Mais qu'est-ce que vous en savez ?
Nous sommes des Maliens.
Le dernier vote date de 2013. Vous avez perdu.
Qui ?
Donc, sur quelle base pouvez-vous dire que c'est favorable ? Il y a une localité qui était censée, vous êtes favorable, c'est celle de Niafouké. Figurez-vous, votre candidat a perdu dans son propre bureau de vote. Dans ce propre bureau de vote, il est battu.
C'est des mensonges.
Donc comment pouvez-vous dire
Monsieur Togo,
ça vous est favorable?
C'est des mensonges.
Monsieur Togo,
vous aviez promis.
Oui, Monsieur Togo,
vous aviez promis le carreau. Vous avez dit de manière claire dans une interview fortement médiatisée dans la presse internationale, vous avez dit moi ou le chaos. Le chaos n'a pas eu lieu.
Avec vos amis des
et c'est ça qui vous gêne. Et vous essayez de recréer le chaos maintenant parce que vous avez constaté que le vote s'est bien passé. Vous en prie, soyez responsables, soyez sereins. On n'est pas en guerre les uns contre les autres.
Vous parlez à un mouvement démocratique.
Mais vous parlez de rebelles.
Nous sommes des acteurs du
mouvement démocratique. Vous parlez de rebelles. Vous dites c'est rebelles.
Monsieur Togo, je vous en prie.
Mais il n'y a plus de rebelles au Mali. Nous avons fait la paix. Nous avons fait la paix. Il n'y a plus de rebelles. Vous êtes en train de stigmatiser une partie de la population. Vous êtes conscient? Vous aspirez demain à devenir président de la République et vous êtes en train de stigmatiser une partie de la population en les traitant de rebelles.
Ils sont des rebelles.
Il n'y a plus de rebelles. Il y a eu une paix. Aujourd'hui, il y a des groupes armés avec lesquels l'armée malienne travaille, qui va se fondre à terme dans l'armée malienne, pour lutter contre un ennemi commun qui est le terrorisme. Ne nous parlez plus de rebelles, s'il vous plaît.
Alors, Si oui, vous permettez. Diallo, ce que je veux rajouter à ceci, c'est que je crois que Monsieur Camara est en train lui-même de violer le principe qu'il s'est fixé en début de débat, à savoir qu'il n'y avait pas de résultats que lui il allait annoncer, et pourtant non seulement sur la radio Clédou mais également aujourd'hui tout de suite en direct il vient d'annoncer leur victoire dans certaines localités. On nous avait dit si vous l'avez dit à Clédou que vous nous avez battu à Nioro du Sahel, vous l'avez dit.
Oui, selon les chiffres qui étaient en notre possession.
Selon les chiffres qui étaient en votre possession. Il a fallu.
Monsieur Diallo, vous, si je ne me trompe pas, vous avez fait la même chose en disant que votre candidat est...
Oui, mais nous ne disons pas que nous ne le faisons pas. Okay. Nous le faisons justement pour empêcher la manipulation des chiffres.
Mais donc vous violez la loi.
Et non, on ne viole aucune loi. On est aujourd'hui dans une position où, d'entrée de jeu, dès le soir de l'élection, tout a été floué à travers des annonces de résultats partiels, bureau par bureau, à la radio, et ensuite par des déclarations telles que celles que M. Camara, annonçant notre défaite à Nioro, annonçant la défaite de Soumaïla à Niafunke, annonçant celle de Muntara à Sérou.
De son bureau de
vote. Oui,
j'ai eu des montages à Radio Founi avec les deux.
Vous l'avez dit, il a fallu que nous nous levions. Laissez-moi terminer.
Personne ne peut remettre en question la
Laissez-moi terminer, M. Camara. Il a fallu,
Monsieur Camara,
il a fallu que le soir de l'élection où il a annoncé que le candidat Alou Diallo a été battu à Nioro, que je m'élève pour dire que c'est complètement faux, pour qu'il commence par rectifier en disant « Non, je ne parle pas de la ville de Nioro, je parle du cercle de Nioro », que je le rappelle encore à l'ordre pour lui dire que c'est faux là aussi et que j'appelle sur place. Et effectivement, là-bas, des manœuvres étaient en cours pour essayer de bourrer et de gonfler les chiffres. Nous étions à une avance de près de 4000 sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Et comme par hasard, entre 22h et minuit, des PV de bureaux de vote ont commencé à apparaître avec des chiffres énormes. Il a fallu que nos équipes sur place commencent à se mobiliser comme jamais pour aller récolter eux-mêmes rapidement certains de ces PV et venir les confronter pour qu'on se retrouve avec une victoire éclatante du candidat Alou Diallo dans la ville de Nioro et dans l'ensemble du cercle de Nioro. 20 330 voix pour Alou Diallo, 10 000 pour le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Alors aujourd'hui,
et combien pour Soumaïla Cissé?
5 000 et quelques, mais ça c'est...
Il n'y a pas de problème, laissez ça.
Moi je vous parle de ce que vous m'avez dit, vous m'avez dit que vous nous avez battu.
Donc
aujourd'hui, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, le calcul dans lequel cette majorité et leurs représentants sont, c'est qu'ils ont déjà leur idée en tête de là où ils vont créer la victoire. Non. Et heureusement que nous sommes levés pour dénoncer, refuser, rejeter cela, parce que nous sommes convaincus que le candidat Alou Diallo est aujourd'hui un candidat qui représente un très grand espoir pour les Maliens et qui est bel et bien en train de se positionner pour la course à Koulouse.
Je voulais ajouter, d'abord, moi je voulais, il y a deux aspects qu'il fallait aussi souligner. Ça veut dire ce qui s'est passé au niveau des urnes, l'achat de conscience, c'est pour la première fois dans notre démocratie. Comme ce n'est pas des vrais acteurs, ils ont mis l'argent au service. Ils ont créé des conditions, d'abord faire en sorte que les gens soient misérables, et ils ont acheté les gens. Aujourd'hui, dans les bureaux de vote, nous avons vu l'argent intervenir pour la première fois dans la démocratie malienne depuis 1991, parce que nous sommes des acteurs. Ils sont venus par accident là-dedans. Alors ces gens ont transformé notre démocratie en achetant les gens. Pour la première fois que j'ai vu des gens, on fait sortir des billets d'argent pour acheter les gens comme des animaux. Alors nous avons remarqué aussi, concernant la loi, concernant les
mais est-ce que vous pouvez nous citer ces
partout nous avons des vidéos, nous avons des huissiers, nous avons fait le travail. Ils ont acheté les gens. Ils n'ont pas pu acheter, là-bas nous avons gagné. Exactement. Là où ils ont acheté, parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé. Nous prenons le cas aujourd'hui de Kaï. Kaï, il y a seulement 2 mois, tu ne peux pas parler d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais après la pluie, c'est qu'ils se sont mis en rang pour acheter les gens. Ils se sont mis en rang pour acheter des gens à Bamako. Dans les écoles, nous avons vu des gens, des voitures sans numéro, venaient se garer, acheter les gens comme des animaux.
C'est fou.
Ils l'ont dit. En même temps, ce que nous avons remarqué, les cartes électeurs où on devait mettre dans les bureaux de vote, la loi est très claire là-dessus. Ces cartes n'ont jamais été amenées. À Bamako, on a reçu les cartes dans les bureaux, sous les arbres, à partir de 16h, 17h. C'est des folles programmées. Ces gens veulent faire des coups d'État, nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter un coup d'État. Il a même déclaré pour dire qu'ils ont gagné. Le plan machiavélique qu'ils ont voulu mettre, faire en sorte, avec le ministère de la Sécurité, avec les responsables de renseignement, et eux-mêmes, pour prendre Bamako en otage, nous allons les dire que sur le coup d'État, nous, on ne va jamais accepter, et on les mettra au défi, pour les dire qu'ils ne sont pas démocrates, ils n'ont jamais été démocrates, on n'allons pas accepter.
Ok, M. Togo. Oui, M. Kamara.
Oui, je m'excuse, je sens beaucoup de tension dans les propos.
Non, non, non.
Ben non, non, c'est pas normal.
Mais M. Togo, je vous en prie.
Visiblement non. Bon d'accord. Chacun sa manière d'être.
Monsieur Camara.
Ce que je veux dire simplement, il faut arrêter de partir du principe que l'élection est truquée. Je vous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il y a les uns et les autres, les candidats et leurs représentants. Il y a aussi des gens qui sont neutres. Je veux parler de la communauté internationale, je veux parler des observateurs. Moi, je fais plus confiance en ces gens-là qu'en eux. Excusez-moi de vous dire ça, qu'en vous.
Merci beaucoup.
Ils vont nous dire, clairement, et c'est dommage que la quatrième personne qui aurait dû être là. Mais parce qu'ils sont neutres. Parce qu'ils sont neutres et censés être objectifs. Dans la mesure où ils sont objectifs, ils vont constater qu'il y a des manques ou pas. Ils vont constater qu'il y a fraude ou pas. Je fais confiance en ces gens-là et je demande aux Maliens d'écouter avant tout ces gens-là et non pas des gens qui sont partisans et qui veulent absolument discréditer une victoire qui se dessine. J'ajouterais que il nous parle de bourrage d'urne, mais il nous parle d'achat de conscience. Monsieur, on se connaît ici, vous me parlez d'argent. Mais excusez-moi, vous disiez à Kyle, il y a un mois, personne n'était avec nous, et maintenant ils sont avec nous. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas fait une bonne campagne. Ça veut dire que nous, pendant 3 semaines, nous avons été au contact des gens. Nous avons vu l'engouement populaire, nous avons expliqué notre bilan, nous avons présenté notre projet. Les choses changent.
Je vous en prie,
peut-être que vous ne l'avez pas fait, et peut-être que ça n'a pas marché. Et peut-être que votre campagne n'a pas pris malgré le coût exorbitant qu'elle a coûté. J'en suis désolé. La réalité est là. Les Maliens ont voté. Il y a une tendance claire et nette qui se dégage en faveur du candidat Ibeka. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui sera annoncé, je ne connais pas les chiffres qui seront annoncés.
Vous en avez annoncé beaucoup.
J'ai dit que nous sommes largement en tête. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'est le fruit de notre propre analyse, de notre propre compilation des résultats. Les autorités compétentes diront ce qu'elles ont à dire. Et à partir du moment de ce moment-là, vous introduirez vos recours dans le cadre de la sérénité.
Non, à la sérénité.
Alors, donc, c'est pas la guerre.
Monsieur Togo, ce que j'aimerais dire. Monsieur Diallo, je vous en prie.
Ah, il avait terminé.
Allez-y,
Monsieur Diallo.
Concentrez-vous sur l'essentiel.
Okay.
L'essentiel, c'est quoi? C'est que les Maliens ont voté dans le calme, la sérénité. Globalement, l'élection s'est bien passée. Maintenant, attendons les uns les autres avec calme et sérénité que les résultats soient publiés. À partir de là, les uns et les autres pourront introduire leur recours. Mais il ne sert à rien de crier aux voleurs alors que l'élection n'est pas terminée.
J'ai vu, parlant des chiffres, j'ai vu des officiels, des élus, des responsables politiques de l'équipe du candidat Ibrahim Boubacar Keïta dévoilées. Elles sont là, elles sont sur les réseaux sociaux. Elles sont sur les réseaux sociaux dévoilées sous prétexte d'une source du ministère de l'administration et de la CENI. Une victoire du candidat Ibrahim Boubacar Keïta à 53%. Et on vient nous dire que personne n'a révélé de chiffres.
Moi, je ne réponds pas de ça.
Oui, mais ce sont vos éléments.
Mais j'ai entendu je dirais ensuite,
sur la question des observateurs, c'est la toute première fois dans l'histoire du Mali qu'on se retrouve à 72 heures après le scrutin, en 48 heures, bientôt 72 heures après le scrutin, et que les observateurs ne peuvent pas dire quelque chose sur le scrutin.
Ouais.
Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est aujourd'hui, on exige au gouvernement de nous dévoiler les résultats. C'est quand même grave. Cécile Kyenge, je l'ai lu, c'est ce que je suis en train de vous dire. Elle a demandé très clairement à ce que soient dévoilés tous les résultats bureau par bureau. Cela prouve bien qu'eux-mêmes se demandent ce qui se passe. Et ensuite, je voudrais parler de la question de Kaï. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous être dit, on a fait une bonne campagne à Kaï, on a fait une bonne campagne à Kaï. Ce que nous constatons, c'est qu'à Kaï, là-bas, il y a beaucoup de cas de personnes décédées qui ont voté. De personnes ne vivant même plus à Kaï qui ont voté. Donc aujourd'hui, quand on vient nous dire que c'est parce qu'on a fait une bonne campagne, je dirais non. J'ai des amis également dans le nord du Mali, dans la localité précise de Ber, qui vivent à l'étranger et qui ont constaté par personnes interposées qu'on les avait fait voter à Ber. J'ai d'autres personnes qui vivent à Tessalit,
dont les parents sont morts depuis plus de 10 ans. Chose incroyable. Et qui ont pourtant voté. Donc aujourd'hui, ne venons pas nous faire croire que l'élection était bien. Nous ne disons pas qu'il faut une élection parfaite.
Mais vous
nous
dites sommes. Que ces gens l'ont voté. Mais qu'est-ce qui vous prouve que ces gens ont voté pour le candidat Mamadou Camara?
Je ne dis pas qu'ils aient voté pour un tel ou un tel. Je dis simplement que ce n'est pas normal. C'est légalement, ce n'est pas normal. C'est illégal de faire voter quelqu'un à sa place. Et je rappelle encore d'autres cas que nous avons relevés à Caille également, de certains de nos militants qui sont rendus dans les bureaux de vote, notamment à l'école du Goukolo Konaré, dans d'autres établissements, je pourrais les citer, et qui ont constaté qu'on a voté en leur nom. Donc aujourd'hui, c'est clair et net qu'il y a un certain nombre d'irrégularités flagrantes dans cette élection-là, qui appelle à ce qu'on commence à contrôler un certain nombre de ces bulletins-là. Parce que je suis convaincu que les empreintes qui sont sur ces bulletins-là seront similaires sur des centaines de bulletins. Et ça, c'est complètement impossible. On ne peut pas avoir la même empreinte.
C'est quand même étonnant que mon jeune frère Diallo soit aussi certain.
Certain.
Je sais pas, moi je comprends pas que tu puisses être aussi certain qu'il y a des empreintes similaires sur les bulletins. Tu as eu accès aux bulletins ?
Non, mais ce que je veux vous dire.
C'est peut-être le procédé par lequel vous êtes passé.
Mais on se souvient durant les élections communales. Durant les élections communales, nous avons eu des cas où, effectivement, des bulletins étaient disponibles pour certains candidats qui faisaient en sorte que le bulletin prévoté soit donné à des gens pour qu'ils aillent rentrer, voter avec et ressortir avec un autre
bulletin.
Est-ce
que c'était réellement le cas?
Maintenant, nous n'avons pas le même cas puisque, effectivement, le dos des bulletins sont signés. Mais quand vous avez des localités dans lesquelles, lors du comptage des voix, on est dans des classes, dans des écoles publiques où il n'y a pas de lumière et où beaucoup de choses se produisent, nous avons découvert énormément de choses. Nous qui sommes, on va dire, nouveaux sur la scène politique, nous avons découvert que le niveau d'expérience dans la fraude est incroyable pour certains partis politiques.
Mais vous dites, dans certaines classes où on comptait les cartes, il n'y avait pas de lumière. Vous dites
mais c'est à la torche qu'on le fait. Hein.
Mais, okay.
C'est à la torche que c'est fait, le comptage.
J'ai l'impression qu'on n'a pas assisté à la même élection, honnêtement.
Si.
Je sais qu'il y a eu des problèmes ici et là, mais lorsque j'entends M. Diallo décrire ce tableau noir, j'ai l'impression qu'il a écrit un bouquin. Soyons sérieux.
Monsieur Camara, vous allez
Tu
viens de dire avec certitude que ton candidat s'est bien porté dans l'élection. Mais si c'était aussi noir que ça, il n'aurait peut-être pas eu les résultats que tu penses qu'il a eu.
Il les a eu proprement. Je mets d'ailleurs au défi, Monsieur Camara, de nous montrer un seul cas où l'ADP Maliba et le candidat Alou Diallo et acheter une conscience. Il n'y en a pas.
Il n'y a que ça.
Il n'y en a pas.
Monsieur Diallo, je vous en prie.
Contrairement.
Non, monsieur Lierdé le sait.
Non, c'est très bien. Ceux qui ont de l'argent, c'est eux. Aujourd'hui, on sait très bien comment vous marchez. Alors, donc, si les départements, aujourd'hui, les ministres, pour la première fois dans l'histoire du Mali, qu'on voit des ministres aller sur le front en tant que ministre de la République avec tout ce qu'ils ont, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est regrettable en démocratie. C'est pour cela que je dis, comme ils ne sont pas acteurs du 26 mars, il est bon que ces gens-là apprennent la leçon. Mais vous tous, en commençant par le président sortant, donc nous, le mois en 91, on menait le combat, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là du tout. Je te l'ai dit, en tant qu'acteur, écoutez, je le sais, je le défie, on se connaît. Non, comment il a rentré, je le sais.
Monsieur Camara,
je vous en prie. Je suis désolé, je suis acteur du 26 mars. Alors donc, même Moussa Traoré reconnaît qu'aujourd'hui, comme il reconnaît que Moussa est un démocrate, même Moussa reconnaît que il faut forcément le détour pour qu'on puisse aller à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est eux, l'Oldop, eux, le coup d'État qui veulent préparer. Nous avons dit, je l'ai dit et je le répète.
C'est une voix.
Il ne vote même pas parce qu'il n'a même pas son droit. Mais néanmoins, ce qui se passe, parce que vous êtes très proche de lui, il reconnaît que ce n'est pas possible de prendre dès le premier tour. Mais nous avons dit, je répète, j'engage, je le dis clairement, que s'ils font le coup d'État, ils vont le regretter.
Et vous êtes sûr qu'il y aura un coup d'État?
Ils le feront. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de préparer depuis quelques jours.
Monsieur Camara,
le coup d'État, c'est quoi? C'est de sortir dans la rue. En demandant d'abord, en utilisant la force, en prenant le pouvoir, en mettant les gens dans une situation difficile, en mettant la police. Je dis, c'est pour ça que je le dis aux forces armées de sécurité, à la gendarmerie nationale, à la garde nationale, à la police. Ils sont républicains de rester républicains. Alors donc, nous n'allons pas accepter. En 91, le mois, on faisait le travail pour faire renverser le régime de Moussa Traoré. Nous avons dit à ces gens-là de rester républicains après le coup d'État. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, impliquer les forces armées, impliquer la garde nationale, impliquer la police pour mater les gens, pour créer les conditions pour prendre le pays en otage et en acceptant d'aller à des élections prépositionnées pour prendre le pouvoir dans des conditions difficiles, nous n'allons pas accepter au Mali.
Oui, monsieur Kouma. Moi,
vous savez, en terminant, parce que nous avons été démocrates, pour la première fois, quelqu'un qui a accepté de se déplacer pour aller saluer Ibeka, qui l'a gagné, c'est nous, dans l'histoire du Mali. Mais cette fois-ci, je vais dire à mon petit frère, je vais dire à mon petit frère que nous allons les mettre en garde.
Ce sont des menaces?
Oui, si vous voulez.
Vous menacez qui?
Prenez comme vous voulez.
Monsieur,
c'est qui vous menacez?
Non.
Écoutez,
oui, monsieur Kamara,
je crois qu'il est bon de remettre les choses au point. On a dit les uns les autres que nous allions mener une campagne civilisée.
Vous n'avez pas fait du tout.
S'il vous plaît. Et ce que j'entends là est gravissime.
Vous êtes libre.
J'entends quelqu'un qui appelle à des pratiques qui menacent la stabilité de notre pays. J'entends quelqu'un qui est en train de préparer le chaos et qui fait écho au propos de son candidat dans le journal que j'ai cité tout à l'heure.
Votre jeune Afrique.
Monsieur Togo,
votre
jeune
Afrique.
Monsieur Togo, je vous en prie.
Vous vous revendiquez du mouvement démocratique.
Oui,
vous savez le prix qu'a payé le mouvement démocratique pour que nous puissions tenir des élections démocratiques au Mali.
Monsieur Togo,
je vous en prie. Ne retournez pas dans ça.
Non, c'est
ne mettez pas les jeunes dans la rue. On vous a vu il y a quelques semaines. Vous envoyez les jeunes marcher alors qu'une marche est interdite.
C'est très grave.
Vous les poussez à aller affronter les forces de l'ordre. Et dans le même temps, vous êtes planqué dans un bureau climatisé en attendant que les choses se passent. Quelle honte!
Ah non,
c'est
là,
honteux. S'il vous plaît, moi, je demande simplement.
Cette marche-là a été réprimée dans le sens.
Monsieur Gallo, je crois que c'est dommage.
C'était scandaleux, la décision qui a été prise.
Vous n'êtes pas des démocrates.
Vous avez pris l'engagement de conduire une campagne correcte, engagée, certes, mais responsable et digne. N'allez pas trop loin, monsieur Togo. N'allez pas trop loin, parce que vous risquez de perdre le gros. Vous risquez de perdre le gros. Attendez simplement.
Attention.
S'il vous plaît, les Maliens ont parlé, ils ont voté.
Attention.
Et qu'il n'ait pas voté en faveur de leur candidat. Excusez-moi, mais ce n'est pas mon problème. Mais ne prenez pas en otage notre pays, parce que vous risquez de perdre une élection. Laissez les choses se faire. Si vous avez des recours, encore une fois, vous les ferez devant les juridictions compétentes. Mais n'en appelez pas à la rue, c'est très grave, nous allons tous perdre. Les Maliens ne veulent pas retourner dans une nouvelle crise. Et c'est ça que vous êtes en train d'alimenter en disant, en appelant à la triche, en disant ils ont triché, ils ont fait ça. C'est faux. Attendez simplement que les résultats sortent et à ce moment-là, vous ferez vos recours. Peut-être que vous n'aurez pas le score mauvais que vous sentez venir. Donc calmez-vous, monsieur Togo, s'il vous plaît. J'en appelle à votre sens de la responsabilité. Et je sais, pour le connaître, que votre candidat n'est pas un homme qui va prendre le pays en otage pour le pouvoir. Donc n'allez pas dans ce sens-là, s'il vous plaît.
Oui.
Juste pour ajouter, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de prendre le pays en otage, c'est véritablement le pouvoir en place qui est en train d'entraîner notre pays dans une crise. Et nous, ne voulons pas d'une crise. Nous avons toujours.
Il n'y a pas de crise au
Mali. Ah non, mais attendez.
Il y a pas de crise tous les jours.
Il y a une élection.
On vit peut-être dans un autre pays. Aujourd'hui,
les taux. Je vous en prie.
Malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui, monsieur Diallo.
Le taux de participation qui est en train de se préparer est un taux qui va justement expliquer tout ce bourrage qui est en train de se faire. Et nous contestons avec la plus grande énergie beaucoup de ces résultats qui sont des résultats soviétiques, staliniens. Ils sont des résultats qui n'expliquent rien ce qui se passe.
Malheureusement, le temps nous fait défaut. Pour conclure ce débat, nous allons aller avec les tendances dans chaque quartier général des différents candidats. Quelle a été la tendance à votre niveau?
À notre niveau, nous sommes au second tour de l'élection présidentielle et nous nous préparons pour ça.
Et vous, monsieur Camara?
Moi, j'aurais préféré vous interroger le grand frère. Je pense parce qu'il dit la même chose que Diallo.
Monsieur Diallo, je vous en prie.
Si la situation continue normalement, Ibeka ne sera pas au deuxième tour.
Et vous, monsieur Camara?
Alors, moi, je dis que ce qui vient d'être dit par monsieur Togo est totalement faux. Notre système de centralisation à nous, qui est confronté avec d'autres systèmes, nous dit clairement qu'un candidat se dégage largement en tête. Ce candidat, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne sais pas, honnêtement, à ce stade,
si cette avance lui permettra de remporter l'élection au premier tour ou pas, mais nous sommes convaincus que l'avance qu'il a aujourd'hui lui permettra, quoi qu'il arrive, de créer une dynamique dans l'éventualité d'un second tour pour être élu.
Merci beaucoup, M. Camara. Cela me fait à ce débat sur le bilan des élections. Merci à nos invités. Mamadou Camara, porte-parole du candidat président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Noum Togo, conseiller chargé de coordination de la communication du directoire de campagne du candidat Soumaïla Cissé. Cheikh Oumar Diallo, directeur adjoint à la communication du candidat Aliou Diallo. Je tenais à vous rappeler que M. Ibrahim Sango, du président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, était supposé faire partie de ce débat, mais malheureusement, pour des raisons inconnues, on n'a pas pu l'avoir. Merci beaucoup. C'était une présentation de Fatoumata Togola à la mise en nom de Gagny Kanté. La régie vidéo est assurée par Salim Johara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Mouni.
Chienne Beri, Sigi Kafoba.